L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème « La parabole du Samaritain » avec Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui venez de nous rejoindre.
Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi, pour entendre ta parole, pour entendre ton message, pour entendre ton amour. Père, dispose nos cœurs à accepter ton message. Oins ton serviteur, Jonathan Junior Mambou. Bénis-le, Seigneur. Bénis le message qui va sortir de lui, parce que ce message vient de toi. Édifie ton peuple. Encourage ton peuple. Redresse ton peuple, Père éternel. Fais du bien. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
La parabole du Samaritain. J'aimerais que nous relisions encore un tout petit peu. Jésus prit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. » Ça fait plusieurs émissions sur lesquelles nous sommes en train de discuter sur, pas de discuter, de partager sur la parabole du Samaritain. Nous avons vu Jéricho, nous avons vu Jérusalem, nous avons vu pourquoi cet homme est descendu de Jérusalem à Jéricho. Jonathan, qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur aujourd'hui sur cette parabole?
Cette parabole nous concerne tous. Elle vous concerne, vous aussi qui nous suivez, même toi, mon frère. Elle nous concerne parce que c'est aussi un panneau qui avertit, nous disant, attention, restez à Jérusalem, ne descendez pas à Jéricho. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent la suite de ce qui est survenu à cet homme qui a quitté Jérusalem, la maison de paix, pour descendre vers Jéricho, ce qui lui était arrivé était désastreux. Il a été battu par des brigands. Pourquoi? Parce qu'il descendait vers Jéricho, ce qui n'était pas une bonne chose. Je vais quand même lire un texte, parce qu'il y a beaucoup d'exemples qui nous avertissent et qui nous disent de ne pas descendre vers le bas. Parce qu'en fait, pour ceux qui nous ont suivis dans les émissions passées, nous avons dit que Jéricho est le point le plus bas de toute la terre, si on peut le dire. Le point le plus bas de tout, au niveau des villes. Il est situé à un niveau vraiment le plus bas. Et Jérusalem n'est pas au point le plus bas. Jérusalem, c'est la maison de paix qui est située au point le plus élevé que Jéricho. Mais j'aime beaucoup le Seigneur. Il a choisi de descendre dans le milieu le plus bas pour récupérer des hommes comme Bartimée, des hommes comme Zachée, des hommes qui souffraient, qui ne connaissaient pas le Seigneur et Dieu les a sauvés. Comme la prostituée Rahab, qui était aussi à Jéricho, mais que Dieu a sauvé par l'entremise d'un certain Josué. Je vais lire le livre de 1 Timothée chapitre 4, je commence au verset 11. Non, je peux prendre le verset 13. Regardez ce que Paul dit à Timothée. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Ça, c'est un conseil que Paul donnait à Timothée. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Tu vois cette recommandation. Donne-toi tout entier. C'est pas en vain qu'il dit ces choses. Parce qu'il sait que celui qui ne se donne pas tout entier à Dieu, qui ne se donne pas tout entier à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement pour les prédicateurs, bien entendu, eh bien, il va connaître certains problèmes qui sont survenus à cet homme qui a quitté Jérusalem vers Jéricho. Mais regardez le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Cela veut tout simplement dire que nous, chrétiens, nous devons veiller sur nous-mêmes. Si nous ne veillons pas sur nous-mêmes et sur ce que nous enseignons en tant que prédicateurs. Par exemple, moi, j'enseigne, je dois veiller. Si ce que j'enseigne, je l'applique aussi. Et il lui disait ça parce qu'il savait ce que l'homme. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en agissant ainsi, regardez bien, tu te sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, même celui qui partage la parole de Dieu, en fait, il n'est pas supérieur à celui qui écoute. Et lui et ceux qui l'écoutent, les deux, ils ont besoin d'être sauvés. En d'autres termes, les deux ont besoin de ne pas rater le Corinthien. Il a dit qu'il traitait durement son corps. On est dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 27. Regardez ce qu'il dit. Je commence même au verset 24 pour vous donner une idée. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, maintenant il parle de lui, moi donc, Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, regardez bien, de peur d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que le Seigneur, c'est pas comme les gens considèrent Dieu comme un vieillard qui comprend facilement, qui peut comprendre que non, tu vois, tu avais quand même fait ceci, des actes de justice, tu es tombé, je vais te récupérer à cause des actes de justice. Dieu ne voit pas les choses comme ça. Dieu, il voit celui qui s'attache à lui jusqu'à la fin. Jésus-Christ l'a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin,
sera sauvé.
Donc, il ne suffit pas de suivre Jésus et de s'arrêter au cours d'un chemin, non.
Il faut continuer jusqu'au bout.
Ça, c'est très important. Et Paul l'a compris, il dit, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché
aux autres.
Et c'est ce qu'il dit à Timothée. Il dit, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est pour cela, Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Prêcher, tu sais, quand on partage, mon frère, ça nous donne toujours l'image d'être supérieur aux autres.
Tout à fait.
Ça, c'est vraiment évident. Moi, je l'ai expérimenté parce que je...
C'est pour ça qu'il faut faire très attention.
C'est pas pour rien que Paul lui a dit ça. Il savait ce que ça donne dans le cœur du prédicateur. Et pourquoi Paul devait insister dans ces choses? Applique-toi à la lecture. Pourquoi il devait insister? Parce que le souhait de Paul, c'était que Timothée ne descende pas vers Jéricho, mais qu'il reste à Jérusalem. Ça, c'est notre souhait. C'est de ne pas rester à Jéricho, c'est de ne pas quitter Jérusalem pour descendre vers Jéricho. Parce que nous l'avons vu dans les émissions précédentes, pour ceux qui nous suivent, et nous le disons encore tout haut, le voleur, il vient simplement pour égorger, dérober et détruire. Mais Jésus-Christ est venu nous donner la vie, et la vie en abondance. Et cette vie, nous l'aurons tant que nous resterons à Jérusalem. Mais en quittant, pour descendre vers Jéricho, ce sera toujours des problèmes et des problèmes. Et cela est vrai, ça a toujours été prouvé dans la Bible, avec beaucoup d'exemples. On peut même prendre l'exemple, par exemple, du premier homme qui a existé sur la terre, Adam. Adam est un exemple clair, Adam et Ève, de ces êtres qui ont eu la grâce d'être à Jérusalem. En fait, vous allez me dire, mais à l'époque, il n'y avait pas Jérusalem. Lorsqu'on parle de Jérusalem, Jéricho, on voit déjà dans Jérusalem le lieu où se trouve Dieu. Voilà, parce que c'est la maison de paix. Hors de l'église, il n'y a pas de paix. La paix se trouve dans l'église. Et l'église dont il est question ici, ce n'est pas une église physique.
On parle du corps de Christ.
Voilà, c'est pas un hémicycle, mais c'est le corps, une église spirituelle. Et lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu deviens cette brique, cette pierre qui est attachée à la maison de Dieu. Et là, Dieu est là. Nous devons rester dans cette présence de Dieu, dans cette maison de Dieu. Comme l'a dit Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est-à-dire, vous tous, vous formez le temple de Dieu. Hein? Il y a deux passages comme ça qui prêtent des fois confusion. C'est celui que je viens d'évoquer et dans 1 Corinthiens 3,16. Là, il parle du groupe. 1 Corinthiens 3,16, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» C'est-à-dire en groupe, au milieu de nous tous, il est en nous. Et nous tous, nous formons le temple de Dieu.
Le temple, le corps de Christ.
Voilà. Mais l'autre verset qui prête à confusion, c'est 1 Corinthiens 6, verset 19. Là, on dit, « Ne savez-vous pas que votre corps... »
Oui. Le temple du Saint-Esprit.
Ça, c'est un autre verset qui donne un autre sens. Quand il dit « votre corps », c'est pour dire tout simplement que bien que nous tous nous formons un temple, mais chaque individu, personnellement, est aussi pour lui-même un temple. C'est-à-dire chacun de nous est une maison. Le problème maintenant, c'est de savoir, tu as une maison qui abrite quoi? Parce qu'en fait, une maison... Et que là, on est en train d'enregistrer dans une maison. Une maison, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui mette la propriété, hein, qui soigne cette maison. Alors, si vous êtes un temple de Dieu, c'est-à-dire en vous, il y a Dieu, il y a la parole, parce que Dieu, c'est la parole. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas le temple de Dieu. Il y a aussi les temples des démons. C'est-à-dire des hommes, là, ils ne sont pas chrétiens, mais ils ont en eux des démons qui les poussent à faire toujours le mal.
Toujours. Pour ajouter à ce que tu as dit de 1 Corinthiens 3, verset 16, on peut lire dans 1 Corinthiens 6, verset 15.
Oui.
Paul dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ?»
Amen.
Tu vois ? Donc, chaque corps humain qui a reçu l'Esprit de Jésus-Christ forme les membres du corps. Peut-être que moi, je suis simplement une partie du doigt. Peut-être que toi, tu es une partie de l'estomac.
Oui.
Mais ensemble, nous formons l'édifice. Ensemble, nous formons le corps. Ceci m'a fait penser à l'histoire que... Bon, pas une histoire, un livre dont un pasteur avait écrit. Mais j'ai lu l'extrait dans un cours. J'ai oublié le nom de ce pasteur, mais c'est une très belle image qui vient de me revenir. Il a eu une vision. Une vision du corps de Christ. Et il voyait le corps de Christ, mais il ne voyait pas la tête. La tête était au-dessus des nuages. Il ne savait pas voir le visage de Christ. Alors il voyait des gens quitter le monde et s'ajouter au corps de Christ. Et il voyait aussi des membres du corps de Christ qui se détachaient et qui tombaient dans le monde. Mais le corps était toujours
intact,
uni. Il voyait des gens s'ajouter, comme aussi il voyait des gens tomber. Alors il a demandé, il a dit, ceux que tu vois qui sont en train de s'ajouter, ce sont ceux qui se sont convertis à Christ. Ceux que tu es en train de voir qui sont en train de tomber, ce sont des gens qui sont revenus au monde. Donc, l'ensemble des chrétiens, et ça n'a rien à voir avec le catholicisme, le protestantisme, foi pentecôtiste, ça n'a rien à voir. C'est le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous faisons partie du corps de Christ. Et c'est l'image que nous sommes en train d'étudier sur Jérusalem.
Et là, les gens ne comprennent pas Dieu à ces niveaux. Ils disent, un peu comme au temps d'Ézéchiel, que finalement, Dieu, on ne le comprend pas. Dieu, il est injuste. Pourquoi il peut permettre que telle personne qui était attachée à moi se retrouve dans une situation où Dieu le laisse comme ça? Mais en fait, Dieu nous connaît très bien. Il connaît tout ce qu'on fait, même dans le secret, dans le noir. Je voudrais lire un texte d'Ézéchiel 18, avant qu'on retourne dans l'exemple d'Adam, qu'on va exploiter aussi. Ézéchiel 18, la Bible dit ceci. Je commence au verset 21. Ça, c'est Dieu qui parle. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a
commis,
s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture
et
la justice. Il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées.
Vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée.
Dieu, il est merveilleux. Hein?
Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt,
oui,
dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive?
Une question importante. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Donc, Dieu ne désire pas la mort du méchant. En continuant le verset 24. Si le juste se détourne de sa justice, maintenant il vient pour les justes. si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité. En fait, ici, le juste, c'est vraiment cet homme qui était à Jérusalem. C'est lui qui est juste. Maintenant, il se détourne de sa justice, c'est-à-dire il commence à descendre. Commet l'iniquité, s'il imite les abominations du méchant, il commence à imiter tout ce que les méchants font. Vivra-t-il? Point d'interrogation. Ça, c'est Dieu qui pose. Est-ce que vraiment cet homme, il doit vivre?
Toute sa justice sera oubliée.
Voilà.
Parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché.
Voilà.
À cause de cela, il mourra.
Il mourra. Et je peux préciser par rapport à cette mort. C'est d'abord une mort spirituelle. Et ensuite, s'il continue, c'est la mort physique. C'est clair. Parce que le salaire du péché, c'est la mort.
C'est exactement le monsieur qui quitte Jérusalem. Il a oublié de marcher dans la justice. En fait, l'image de demi-mort, là, en fait, c'est déjà la mort spirituelle.
Oui.
C'est simplement que l'autre partie de la mort ne lui est pas arrivée. On va dire que Dieu l'a protégé, l'a gardé. Mais il y a combien qui se retrouvent dans cette grâce?
C'est pas pour rien que Jésus-Christ disait « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Oui, parce qu'il y a des gens qui marchent, mais pour Dieu, ce sont des morts.
Ce sont des morts, des morts vivants.
Oui, c'est-à-dire qu'ils marchent, mais ils ne sont plus en communion avec Dieu. Hein? C'est vraiment ce qu'a connu Adam. Hein? La Bible dit que par là d'Adam, on va retourner, mais je le donne quand même en anticipant. Dieu a dit à Adam de ne pas toucher au fruit de l'arbre défendu. Et que s'ils le mangeaient, ils allaient mourir.
Tout à fait.
Mais Adam a mangé, il n'est pas mort le même jour.
Il a vécu au moins 600 et quelques années.
On peut rechercher ce verset, on va le trouver. Je crois que c'est Genèse chapitre 5. Hein? Genèse chapitre 5, regardez à quel âge, avec combien de temps il a vécu sur terre. Genèse chapitre 15, verset 4. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent
de 800 ans.
Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans.
930 ans, c'est pas 600 ans, je me suis trompé.
930 ans, puis il mourut.
Puis il est mort. Mais au fait, la mort avait déjà commencé dès l'instant où il avait mangé le fruit défendu.
Dieu donc faisait allusion à une mort spirituelle pour dire que, en fait, quand Dieu a parlé de la mort, il voulait aussi dire que la mort de notre esprit, c'est-à-dire l'interruption de cette communion avec Dieu, est plus importante que la mort physique. Un homme peut avoir des richesses, ce n'est pas une bonne, mauvaise chose. Moi, je cherche d'avoir aussi des biens. Ça nous aidera à faire avancer les royaumes des dieux. C'est une bonne chose. Mais quand Dieu a parlé de la mort, il n'a pas vu la mort physique.
Écoute ça. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu n'en mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras,
il a mangé, il est mort le même jour.
À partir du chapitre 3, le monsieur a mangé.
Et il a continué à vivre.
En fait, il a vécu une vie que nous, les humains, nous voyons vivre.
Oui.
Mais la mort avait commencé à agir dans sa vie.
Oui.
C'est comme un peu l'histoire de quand Jésus a maudit l'arbre, le figuier maudit. Quand il a maudit le figuier, il a dit « Plus jamais tu porteras de fruits ». Ils sont partis au temple, ils sont revenus le lendemain quand ils sont venus. Pierre constate que l'arbre est mort.
Oui.
Mais en fait, la mort avait commencé dès l'instant que Jésus avait prononcé les paroles.
L'arbre avait séché. Comment expliquer que Dieu dit à quelqu'un « tu vas mourir » et il continue à vivre? Mais c'est normal. Dieu, c'est pour ça que je dis toujours, la Bible, ce n'est pas un livre à lire comme un journal. Non. La Bible, c'est un livre spirituel. Et la Bible s'explique par la Bible.
Par la Bible.
C'est en lisant d'autres versets que nous comprenons la pensée de Dieu. Ah oui. Donc quand Dieu disait qu'il allait mourir, il ne faisait pas allusion à la mort du corps.
Physique d'abord.
Mais il faisait allusion à l'esprit. Parce que en nous, il y a l'esprit.
Parce que, tu sais, la mort spirituelle entraîne toujours d'autres choses.
Oui.
Parce qu'en fait, quand tu es en Jésus-Christ, tu as la vie. Tu as la guérison, tu as la prospérité, tu as la bonne santé. Bref, tu es protégé par la source de la vie. Mais dès l'instant où tu te détaches de la source de la vie, s'il n'y a plus de source. C'est ça que Jésus... Attends, je vais lire un peu. Revenons un peu à Jean 15. On va revenir
oui,
à...
Nous aurons toujours le temps.
Jean 15, j'aime ça. Jean 15, la parabole du sarment du cep. Jean 15, à partir du verset 1. Jésus dit ceci, « Je suis le vrai cep. » Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche et tout sarment qui porte de fruits, il l'immonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Tant que nous sommes attachés à Dieu, nous avons en nous ce que Dieu a en lui.
Amen.
Mais quand nous nous sommes détachés de Dieu, c'est terminé, c'est fini. Puisque nous ne recevrons plus de Dieu, nous allons peut-être continuer à donner l'impression de vivre. Parce qu'il y aura toujours cette sève de Dieu qui coule encore en nous. Mais nous sommes coupés de la source. Et quand tout ce qui était de Dieu, qui était encore en nous, que nous avons puisé, va circuler, va être consommé, ben maintenant, ça sera cette mort spirituelle. Satan va jouer son rôle. Tu sais, un homme de Dieu a dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui, de toutes les créatures de Dieu, c'est le diable qui a le plus de foi. Il est convaincu que dès l'instant tu n'es plus avec Dieu, il sait que les paroles de malédiction vont s'accomplir dans ta vie. Son seul souci, c'est de te détacher de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait dans Genèse, revenons un peu, dans Genèse...
Chapitre 2, je
crois. Chapitre 3. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Bref, Dieu a menti. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Cette histoire veut nous dire ceci. Satan est précipité sur la terre. Satan détruit la terre. Dieu reconstruit la terre. Satan voit ce que Dieu est en train de faire. Satan voit Dieu en train de former un corps humain, de souffler sa vie dans ce corps humain et ce corps prendre chair. Il comprend que c'est Dieu qui vit dans ce corps. La femme vient. Quand Dieu dit à Adam, ne mange pas de cet arbre, Satan certainement a entendu. Ou il a eu écho de ce qui a été dit. Il vient et il dit à la femme, parce qu'il n'est pas sûr, est-ce que Dieu vous a vraiment interdit de manger tous les arbres du fruit? Ça, c'est une théorie. La femme dit, non, on peut manger de tous les arbres. Mais cet arbre ici, nous ne pouvons pas en manger. Parce que le jour où on mange, on meurt. Quand tu lis le texte dans son original, dans son sens original, le mot mort que utilise Dieu, d'abord au chapitre 2, le mot mort que Ève utilise, c'est le mot de séparation. Ça veut dire que le jour où on mange de cet arbre, nous sommes séparés de Dieu. Satan comprend que je peux détruire ces personnes, mais il n'y a qu'une seule condition. Il faut d'abord qu'ils se séparent de Dieu.
Ah oui.
C'est la même chose avec ce monsieur de Jérusalem. Satan veut le détruire, mais tant qu'il est dans Jérusalem, il est protégé par la muraille de Jérusalem. Il est protégé par Dieu. Alors, il faut un acte de désobéissance, un acte de rébellion, un acte de non-soumission. Il faut que la personne sorte. Parce que dès qu'elle sort de la présence de Dieu, c'est fini, c'est bon, il est à moi. C'est dans ce sens-là que je disais que Satan a une plus grande foi. Il sait que dès l'instant où nous avons quitté Christ, c'est terminé. Nous sommes à sa merci.
Et je vais lire ce texte, toujours pour enchérir, qu'on a déjà lu, mais je prends la suite d'Ézéchiel 18, 25. Regardez ce que Dieu dit. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Ézéchiel 18, 25. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Dieu pose la question. Donc ma voix n'est pas droite. Maintenant, il repose une autre question. Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Pourquoi il leur posait cette question? Ils n'étaient pas ici. J'ai voulu dire, ils n'étaient plus à Jérusalem. Ils sont partis en captivité à cause du fait qu'ils ont
désobéi. Ils ont désobéi, tout à fait.
Si les justes se détournent de sa justice et commettent l'iniquité et meurent pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Regardez encore le verset 29, c'est là que je finis. La maison d'Israël dit, ça c'est Dieu qui dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Pourquoi Dieu insiste encore pour la deuxième fois? Pour que nous sachions que chacun a sa part. Il y a la part de Dieu.
Et la part de l'homme.
Quand tu ne mets pas en place ta part, eh bien ne condamne pas Dieu.
Tout à fait.
Ne condamne pas Dieu.
Ça, tout c'est à très fait. Important. Tu as parfaitement raison, frère Jonathan. En fait, ce que Dieu essaie de nous faire comprendre dans ce passage, c'est qu'il y a des, il y a des règles de jeu qu'il faut respecter. On ne peut pas jouer un jeu sans connaître les règles et s'y appliquer. C'est ce que Paul dit. On ne court pas dans un stade pour courir. Il faut courir de manière à remporter le prix.
Et que les bien-aimés continuent à lire le texte, hein, le verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Dieu continue. Rejetez loin de vous toute transgression par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous? Dieu insiste, maison d'Israël, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez.
Vous n'êtes pas, Dieu. Mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas obligé de mourir. Dieu permet cette émission pour vous faire du bien, pour vous donner la vie. Détournez-vous du péché et revenez à Dieu. Si c'est cela votre prière, baissez la tête dans la tente, baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens à toi. J'ai entendu ton appel, j'ai entendu ton message. Je te demande pardon. Je reviens à toi. J'abandonne l'iniquité et le péché. Je me détourne de Satan pour suivre Jésus-Christ tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Merci pour ton amour et ton pardon. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sous le même thème, la parabole du Samaritain, avec Jonathan Junior Mambou. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.
Que Dieu vous bénisse.
L'émission Venez à Jésus vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.